Donc ce soir, je voudrais parler un peu des sources de la pratique telle que nous la faisons ici, donc les sources indiennes, basées sur un sutra particulier, un sermon particulier du Bouddha qui s'appelle le Satipatthana Sutra. Ce sermon est un peu la base de toute la tradition bouddhique en ce qui concerne la pratique de la méditation dans ce genre de celle que nous pratiquons ici. La tradition indienne en général et la tradition bouddhique en particulier a un grand souci de cohérence. Ce n'est pas comme la tradition chinoise qui raconte des histoires, qui utilise des allégories. C'est tout un autre style, mais la tradition indienne aime être très cohérente, rigoureuse. Donc on verra ici qu'il y a une certaine rigueur, une manière de décrire la pratique en envisageant différents aspects, donc une cohérence. Je vais essayer de rendre compte un peu de cette cohérence. Mais évidemment, ça pose quand même la question, est-ce que la vie, elle se soumet à cette nécessité de cohérence? L'explication, elle a besoin d'une cohérence, mais la vie, elle est différente. On ne peut pas la réduire à ce besoin de cohérence. Donc il y a quand même... il est important de prendre ceci avec une certaine relativité. On essaie d'expliquer, de rendre compte de quelque chose qui est de l'ordre d'un vécu, d'en rendre compte pour que rationnellement, ça soit organisable, pour nous recevable. Mais il y a quand même nécessairement une sorte de distance, puisqu'on parle d'un vécu qui ne peut pas être simplement réduit à quelque chose de raisonnable. Voilà, donc simplement pour marquer cette nuance, qu'il faut prendre ceci de manière relative, et même cette cohérence que je vais essayer d'évoquer ici, plus ou moins cohérente d'ailleurs, il y a certainement d'autres manières aussi d'expliquer ceci. Le danger serait de croire que voilà, ceci est la manière juste ou la seule manière. Donc ce texte... qui est nommé les quatre fondements de l'attention, même si les traductions ne sont pas tout à fait justes, mais quand même, c'est important, les quatre fondements de l'attention. On verra que le terme attention est un peu ambigu ici. Et il décrit un peu tous les types d'expériences qui vont pouvoir surgir dans la méditation et les types d'expériences qui sont à inclure dans la méditation. C'est une sorte d'inventaire de tout ce qui peut surgir, et aussi de ce qu'on en fait, comment on traite ces expériences qui surgissent dans la méditation. Donc il y a là un souci d'inclure tous les vécus, aucun est placé à l'extérieur de ceci. À nouveau, si on exclut le sommeil profond et le coma, il ne semble pas accessible à ce genre de pratique, autrement toute expérience, tout vécu va trouver sa place dans ces quatre fondements de l'attention. Alors on peut, pour aller classifier légèrement différemment, mettre certains vécus dans un des fondements ou dans un autre, peu importe, mais ça doit recouvrir tout. Et ce qui est intéressant, ce qui veut dire que dans notre pratique, à aucun moment donné, on peut dire cette expérience-là est un obstacle à la méditation. Ce vécu-là, il ne fait pas partie des catégories. Tous les vécus sont inclus. Maintenant, il s'agira de trouver comment avoir cette attitude méditative dans divers types d'expériences qui demandent une sorte de sensibilité ou peut-être le fait de clarifier une confusion un peu différente. Donc le terme c'est Satipatthana, donc la racine c'est Sati, et Sati c'est le terme qui pose un peu problème, que les anglophones ont traduit par mindfulness, qu'en français on traduit par pleine conscience ou par présence. Et on pourrait se dire, tiens, on a de la peine dans les langues indo-européennes, bien que le pali soit indo-européen, à trouver un équivalent pour Sati. Manière un peu de donner une sorte de pouvoir magique au pali, sati voudrait dire des choses qu'on ne peut pas rendre ni en français ni en anglais. Mais sati ne peut pas rendre non plus ce qu'il veut dire. Ça veut dire que lorsque à l'époque du Bouddha, on a voulu exprimer quelque chose qui était une attitude nouvelle. On a pris un terme qui faisait partie du langage courant. On a eu les mêmes difficultés qu'on a dès qu'on veut exprimer quelque chose de neuf. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas des mots qui attendent dans le dictionnaire que tout d'un coup on trouve à quoi ils vont correspondre. Et on a des mots dans le dictionnaire, puis c'est laissé en blanc, ça va être découvert en 2000, je sais pas, 30, et on trouvera le sens de ce mot. Donc voilà, si dans la méditation une nouvelle attitude est découverte et clarifiée, eh bien il a fallu prendre dans la langue courante un terme qui semblait pouvoir exprimer ceci et auquel on a dû. Ou duquel on a dû transformer le sens. C'est bien ce qui se passe avec sati, parce que sati, dans le sens du mot, veut dire se souvenir. Donc on se rend bien compte que dans la méditation, il ne s'agit pas de se souvenir, on s'assied pour se souvenir. C'est même un peu l'opposé de ceci. Mais néanmoins, on a utilisé ce terme dans la langue pali, et puis on en a donné un sens un peu différent. Je vais revenir sur le sens de ce terme sati qu'on a de la peine à traduire parce qu'il décrit une expérience qui sort un peu du cadre habituel, c'est-à-dire du cadre fonctionnel, utilitaire, qui nous remet plutôt dans une dimension d'être plutôt que dans une dimension de faire, d'une certaine manière de fonctionner. Donc, utilisons ce terme de pleine conscience. Dans ce texte-là, on décrit la pratique de la pleine conscience ou de la présence. Mais la pleine conscience n'est pas une fin en elle-même. Il ne s'agit pas de simplement développer cette capacité à la pleine conscience. La pleine conscience est développée afin d'arriver à une certaine qualité de conscience qu'on appelle vipassana. Je suis navré de vous donner ces termes pali, mais on les rencontre quelquefois dans les textes au sujet de la méditation. Donc, ce qu'on essaie de développer par la pratique de la pleine conscience, ce qu'on essaie de développer, c'est vipassana. Et vipassana veut dire une vision claire, une vision tranchante, une vision qui est libre de toute confusion. Donc, la pratique de la pleine conscience devrait amener à nous libérer de toute confusion. Nous, on se libère d'idées préconçues, de jugements et autres. Le terme vipassana est assez simple. Vi veut dire de manière tranchante et passana a une racine de voir de manière tranchante. Et qu'est-ce qu'on tranche? À travers quoi est-ce qu'on tranche dans ce vipassana? On tranche à travers les notions, les idées, les confusions, les concepts. On essaye dans cette pratique méditative d'être à un niveau d'expérience intime qui est avant toute élaboration, avant tout sens, avant toute histoire qu'on pourrait raconter au sujet de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe avant que cette expérience soit organisée dans un sens? Ce sens est la plupart du temps judicieux et utile, c'est pas le point, mais c'est que tout d'un coup, ce qu'on éprouve, ce n'est plus l'expérience elle-même, mais c'est le sens. Le sens vient et dans le fond, il se substitue, comme on le verra, à l'expérience elle-même. Et c'est là qu'il y a une confusion entre le sens, qu'on croit être le vécu le plus intime ou primitif. Il y a une confusion. Donc c'est ce à travers quoi ce vipassana tranche. Maintenant, pourquoi? Ce n'est pas une question philosophique pour qu'on puisse dire ouais, « Moi, j'arrive à trancher à travers la confusion, c'est extraordinaire. » Par la pratique de la pleine conscience. Non, pourquoi ceci peut présenter un enrichissement, un intérêt? Pourquoi ça vaut la peine de s'asseoir en silence, d'avoir mal aux genoux, au dos, etc.? Parce que cette vision claire, elle est libératrice, elle est significative de liberté. Lorsqu'on n'est plus dans la confusion par rapport à soi, par rapport au monde, par rapport aux autres, alors ça ouvre un espace de liberté. Et dans la pratique, on peut en faire l'expérience à des niveaux différents, quelquefois des niveaux profonds où la confusion est importante ou elle est constante, mais aussi à des niveaux plus superficiels où le fait de prendre conscience d'une confusion qu'on avait par rapport à certaines expériences, combien tout d'un coup ceci nous libère, libère dans le rapport à nous-mêmes, nous libère dans le rapport à autrui. Donc on voit le cheminement, on pratique cette pleine conscience pour arriver à cette vision claire de la réalité, parce que ceci nous amène une certaine liberté, ou une liberté inconditionnée, pour reprendre les termes bouddhiques. Je vous donne une définition de sati, hein, qui correspondrait à une définition de la pleine conscience, qui vient d'un texte canonique et d'un commentaire. Donc voilà ce que nous dit le commentaire de ces textes de psychologie bouddhique. Il dit, le mot sati vient d'un mot signifiant se souvenir, mais ici il signifie présence d'esprit, attention au présent, et non pas la faculté de se souvenir, tel que le terme pourrait l'évoquer. Maintenant, attention au présent, c'est une manière très bizarre de s'exprimer, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que le présent. Comment il se manifeste le présent. Vous l'avez vu. Ce qui se manifeste pour nous, c'est un vécu présent. Donc, attention au présent, ça veut toujours dire attention à un vécu présent qui se manifeste d'une certaine manière. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Avec les termes de temporalité, hein, on tombe facilement dans une sorte de chosification de la temporalité. Alors qu'ici, c'était ce vécu dans l'instant, de l'audition de quelque chose, d'une expérience de chaleur, d'un inconfort, ou au contraire de la joie ou de la tranquillité. Voilà, cette attention au présent, ça veut dire attention à l'expérience présente. Donc il continue ici à définir ce terme sati, donc il implique une absence de confusion, c'est évidemment ce qui nous intéresse, et aussi il implique une absence de dissipation. Dans la pleine conscience, il n'y a pas de dissipation, l'esprit ne passe pas d'une chose à l'autre superficiellement, sans pouvoir vraiment pénétrer l'expérience. Un exemple aussi que donnent les textes, ils disent une attention superficielle, une conscience superficielle, c'est comme du beurre qu'on mettrait à la surface d'un étang, il reste à la surface, il ne pénètre pas dans l'eau. Mais une pleine conscience, une attention présente avec cette qualité-là, c'est comme du gravier qui pénétrait dans l'eau. Donc c'est une manière de pénétrer dans les expériences, de ne pas rester de manière superficielle. Et superficielle, ça veut dire quoi? On est là dans des sortes d'analogies géométrique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on reste simplement au niveau du nom qu'on donnerait à l'expérience. Voilà, ça c'est de la fatigue, de la somnolence, mais j'en fais pas vraiment, je la goûte pas vraiment. J'ai trouvé le nom, je le mets dessus, quel est le mot juste, fatigue, somnolence, agitation, inconfort, c'est le mot juste, mais je reste encore d'une manière, dans un contact qui est extrêmement flou à cette expérience-là. Donc, pénétrer dans l'expérience, c'est vraiment passer à travers cette image concept, image écran, pour l'éprouver totalement. Donc, on va voir un peu ces catégories et peut-être qu'on en approfondira certaines dans les jours à venir. Donc, je vous donne ces quatre sphères d'expérience. Donc, la première sphère, c'est le sensible, c'est tout ce qui dépend des organes sensoriels, la vision, l'audition, etc. La deuxième sphère, est-ce qu'on appelle la sensation affective ou les sensations affectives? Traduction de certains érudits, qui me semble assez judicieuse, les sensations affectives, c'est la dimension agréable, désagréable ou indifférente qui accompagne toute expérience. Quelque chose peut être éprouvé comme agréable ou comme désagréable ou de manière indifférente. Et cette qualité accompagne toute expérience. Aucune expérience n'a pas cette qualité affective. On ne peut pas tout d'un coup retrancher cet aspect de la conscience. Donc ceci accompagne toute expérience. On peut avoir une expérience auditive qui peut être agréable ou désagréable ou indifférente. Le goût, en général agréable, on espère. La vision, les odeurs évidemment, et la sensation corporelle qu'on sait très bien peut être agréable, désagréable ou quelquefois indifférente. Et on verra que lorsqu'on amène cette prise de conscience de cette dimension de l'expérience, ceci nous permet d'être moins dans la réaction. Parce que quelquefois, il y a une expérience qui est légèrement désagréable et on est dans la résistance, mais on ne s'en rend même pas compte parce qu'on ne s'est pas rendu compte que c'est désagréable. On pourrait faire l'expérience d'une certaine torpeur, de quelque chose de vague, qui pourrait être éprouvé comme désagréable, mais je reste avec une difficulté à être vraiment en contact avec ce qui se passe parce qu'il y a une sorte de flou. Et si je prends conscience, tout d'un coup, tiens, il y a cette dimension désagréable dans cette expérience-là, je me rends compte tout d'un coup que je suis plus en contact avec ceci. Donc cette dimension agréable, désagréable, indifférente, c'est moins important, mais agréable ou désagréable, en général, elle va initier en nous une réaction presque inconsciente. Si quelque chose est agréable, on s'y accroche, oh, c'est chouette. Si quelque chose est désagréable, il y a une résistance. Et si on n'est pas conscient de ceci, on risque de se battre avec une expérience. Prenons l'exemple d'une douleur corporelle, peut-être légère. Voilà, on a une sensation ici, on appelle douleur. Donc douleur, c'est déjà une manière de parler de cette sensation corporelle avec une certaine évaluation. C'est désagréable. C'est rare qu'on parle de douleur lorsque c'est agréable. Ça peut changer parfois rapidement, mais en général, si on est dans cette dimension désagréable, donc on appelle ça douleur, ou si on appelle douleur avec consistance, c'est désagréable. Et lorsque je prends conscience de cette dimension désagréable, alors je me rends compte que je résiste. Que dans le fond, même si, bien bravement, j'essaie d'être en contact avec cette douleur pour déterminer quelle est la sensation corporelle, dans le fond, je n'ai pas vraiment envie, parce que c'est désagréable. Et ça, évidemment, ça nous complique beaucoup la vie de méditant. Parce que lorsqu'on veut et on ne veut pas à la fois, c'est compliqué. Pas seulement dans la méditation, d'ailleurs, mais enfin dans la méditation, ça l'est assez clairement, de vouloir être en contact, mais d'un autre côté, ne pas vraiment vouloir être en contact parce que c'est désagréable. Et pourquoi est-ce que je voudrais être en contact avec quelque chose qui est désagréable? Même si j'essaye de m'en tenir au règlement quand même, mais pourquoi est-ce que je ferais l'expérience? Pourquoi est-ce que je voudrais être en contact avec quelque chose qui est désagréable? Donc là, on reviendra évidemment sur ces aspects-là, quand même pour indiquer une réponse. C'est parce que dans la mesure où je peux approfondir cette expérience qui est désagréable et la connaître dépourvue de confusion, il y aura la liberté dans cette expérience-là. Si je ne suis soumis qu'aux critères de plaisir des plaisirs, alors je suis complètement assujetti, je suis un esclave de ce critère plaisir des plaisirs. Et on sait très bien qu'il y a des gens, peut-être les enfants, je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi simples que ça, mais enfin qui sont uniquement, qui fonctionnent uniquement par ce critère plaisir des plaisirs. On a l'impression que voilà, c'est le seul critère est là. Et donc, c'est un emprisonnement immense. Et lorsque, dans la méditation, on découvre qu'on peut être en contact avec quelque chose de désagréable, à nouveau, sans que ce soit intense, mais on trouve cette capacité, cette liberté dans cette expérience désagréable qui est évidemment beaucoup plus riche que l'aspect désagréable qui, finalement, n'était pas tellement important. Vous voyez, c'est comme si on réagit avant de se poser la question « Est-ce que vraiment ça vaut la peine de s'opposer à quelque chose qui est désagréable, mais qui est un vécu présent. » C'est-à-dire, d'une certaine manière, m'échapper de la réalité. Dans l'imaginaire, dans le vouloir transformer, changer. Parce que le fait de vouloir assumer sa propre existence implique aussi le fait que j'assume ma propre existence, même dans l'inconfort. ou est-ce que je veux l'assumer seulement dans le confort, qui risque d'être extrêmement limité parce que, voilà, notre confort dépend de beaucoup de causes et de conditions qui ne sont pas entre nos mains. Certaines oui, mais la plupart non. Voilà, donc pour donner une piste, pourquoi c'est important et pourquoi il y a un aspect libérateur dans ceci. Donc ceci était la deuxième sphère. Je les énumère et puis je reviendrai sur la première. La troisième, c'est la sphère de la conscience. Alors, dans cette sphère-là de conscience, on pourrait mettre. On verra que la classification elle est peu importante, mais on pourrait mettre les pensées, qui est évidemment une expérience importante dans la méditation, on pourrait mettre l'imaginaire, on pourrait mettre les émotions. Donc tout ceci est le lieu de la méditation. Ces quatre fondements de l'attention, c'est ce qui, si on est pleinement conscient de ceci, permet d'atteindre le nirvana, l'éveil. Je veux dire, c'est pas des défauts de la vie. Il faudrait essayer de développer une existence où il n'y aurait plus d'émotions, plus d'agitation, plus d'inquiétude, et on deviendrait une sorte de page blanche extraordinaire. C'est pas ce que le texte dit. Il dit que ces expériences-là, quelles qu'elles soient, sont propices à la méditation, sont un enrichissement, et on verra même que les expériences difficiles, d'émotion, de confusion et autres, sont d'autant plus riches qu'elles ont besoin qu'on amène une certaine clarté, et qu'elles ne sont pas en elles-mêmes, qu'elles n'ont pas en elles-mêmes un pouvoir de contrainte, même les émotions les plus difficiles. C'est la confusion qui est liée à ces émotions difficiles qui leur donne ce pouvoir contraignant. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas à se débarrasser de toutes les émotions, de toutes les difficultés, mais si on les voit clairement et que ce qu'on va clarifier, c'est la confusion qu'il y a à leur propos, alors on pourra les éprouver, quelles qu'elles soient, en pleine liberté. Mais lorsque la confusion aura clarifié ces émotions et autres, il est évident qu'elles vont perdre leur raison d'être. Donc elles ne vont même pas se maintenir, parce que c'est la confusion qui les maintenait en vie. Donc voilà en ce qui concerne la troisième, la conscience. Quatrième, très bien traduire par phénomène, le texte dit dharma. Dharma, c'est tout ce qui existe dans la tradition bouddhique, donc les phénomènes. Et puis là, on pourra inclure les états mentaux. Je définirai pourquoi. On fait une différence. États mentaux tels que la somnolence, la fatigue, le calme, la tranquillité. On pourrait mettre des aspects positifs tels que la compassion, la bienveillance. Oui, c'est une question de vocabulaire. On va les mettre dans des catégories, mais c'est pas absolument. Elles devraient aller dans ces catégories-là. Si on étudie les termes émotions dans la pensée occidentale, on se rend compte qu'il y a eu vraiment des manières de classifier les émotions tellement différentes, avec des choses. Tout d'un coup, on trouve dans les émotions, chez Descartes par exemple, des choses, on se demande comment il a pu les mettre là et comment il a pu en oublier d'autres. Et puis on regarde plus tardivement, alors une autre classification. Donc c'est qu'une question de vocabulaire pour nous permettre, nous, de nous y retrouver dans la pratique et non pas pour dire, voilà, ça va dans cette catégorie-là de manière plus importante que ceci. Donc état mentaux. Pour revenir à la sphère, la première sphère, sphère du sensible. Donc évidemment, il y a toute expérience visuelle, auditive, gustative, olfactive et tactile. Tactile dans le sens de surtout de ce qu'il y a de présence de nos propres corps, qui sont le lieu de la méditation. On emploie assez peu le visuel, mais il est aussi riche que toute autre expérience. Le problème avec le visuel, c'est qu'il nous projette à l'extérieur. Il est d'une telle richesse, on a tellement d'habitudes que c'est plus difficile d'y être présent. Mais ce n'est pas une impossibilité. L'auditif est un peu plus simple. Mais maintenant, il ne s'agit pas, lorsqu'on utilise ces sphères sensorielles dans la pratique de la pleine conscience, il ne s'agit pas de croire qu'on va simplement faire l'inventaire de tout ce qu'on peut entendre dans la salle de méditation. Voilà, on entend un peu les haut-parleurs, on entend les feuilles qui tournent, on entend peut-être un peu l'électricité, et puis les gens qui bougent. Alors, ça ne vaut pas la peine de venir à un stage de méditation pour découvrir que dans une salle, voilà ce qu'on peut entendre. Ça ne vaut pas le déplacement. Ce qui est intéressant, c'est non pas le sens qu'on donne à l'expérience auditive, mais l'expérience elle-même. L'audition elle-même, non pas l'interprétation. Venir un peu dans la précision. En général, nous avons besoin, dans les expériences sensorielles, immédiatement d'en tirer une certaine connaissance. Et c'est important, c'est utile. Si je traverse la route et j'entends un bruit assez fort, si je reste simplement pleinement conscient juste de l'audition de ce bruit extrêmement, je risque de finir sous le camion qui vient. Donc j'ai quand même avantage à pouvoir interpréter ce son assez intense comme étant le son d'un camion ou d'un tracteur. Et donc il y a immédiatement une compréhension du sens que ce son révèle. Ici, un tracteur, j'aurais pu me tromper, un petit camion, mais. Donc nous interprétons immédiatement parce que nous avons besoin de ceci de manière utilitaire. C'est normal. Mais dans cette interprétation, on a oublié le son. Ce qu'on a entendu, c'est le camion, ce n'est pas le son du camion. On a immédiatement passé au sens de l'expérience. On a oublié l'expérience elle-même. Donc ce qui, dans la méditation, va nous intéresser, ce n'est pas l'interprétation, parce que ça, nous savons très bien le faire, de manière extraordinaire, mais ce qui nous intéresse, c'est revenir à l'expérience avant l'interprétation. Qu'est-ce que c'est que cette audition de ce bruit? Et on va être plus attentif à toutes les fluctuations dans le bruit d'un moteur, c'est très complexe. Donc on s'approche de plus en plus de l'audition, du son lui-même qui est entendu. Et qu'est-ce que ça va révéler finalement? Non pas la source du bruit, non pas le sens, mais ça va révéler dans l'intimité de l'expérience une conscience qui est en train d'entendre quelque chose. C'est soi-même qui va être révélé dans cette expérience auditive. Puisque toute expérience sensorielle, nécessairement, vous voyez, on utilise toujours l'expérience sensorielle pour découvrir quelque chose du monde qui nous entoure. Normal, mais elle révèle aussi cette expérience-là, et peut-être avec une plus grande certitude, une conscience pour qui il y a tout d'un coup le bruit d'un camion. Et elle la révèle avec une beaucoup plus grande certitude que le camion, parce que j'aurais pu me tromper. M'arriver aujourd'hui, c'est un squad, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ça faisait le bruit d'un camion, mais voilà. Donc, on peut se tromper dans l'interprétation, toujours, puisqu'il y a une transposition, une traduction d'une expérience dans un connu. Je pourrais voir quelqu'un qui vient au loin, me dire, tiens, voilà, c'est Françoise qui vient au loin, et puis la personne se rapproche, ah non, je m'étais trompé. Mais je ne me suis pas trompé que je voyais quelque chose. Ça révélait bien une conscience qui était là en train de voir. L'interprétation peut être fausse. Donc, quand on se rapproche de l'expérience ici sensorielle dans l'audition, je le dis parce que c'est assez simple et c'est une exploration extrêmement riche, de ne pas s'accrocher, ne pas s'arrêter au sens, à la source, même si ça vient très rapidement. L'image du camion, le mot camion vient très rapidement. Là, quand on entend les feuilles tournées, on pourrait dire qu'immédiatement, on a presque soit une image blanche qui tourne ou il y a quelque chose. Immédiatement, c'est pas. Si on revient au bruit, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait comme bruit, une feuille qui tourne? Plus personne ne tourne les pages, il faut que je continue de raconter des histoires. Mais voilà, ce bruit, donc quand on s'approche de l'expérience, on voit bien il peut y avoir une image, comme j'ai dit, quelque chose de blanc qui semble se tourner, ou bien ça peut être pour certaines personnes, c'est plus le mot qui va surgir. Mais ça, ce n'est pas l'audition. Ça, c'est l'interprétation. Ça, c'est l'origine. Je reviens plus à l'expérience. Évidemment, la page qui tourne, c'est assez court. Mais on revient à l'expérience elle-même en me disposant totalement à cette écoute, plus proche de l'expérience. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est moi-même que je découvre ma conscience, ma pleine conscience dans cette expérience-là qui est révélée. Quand je ne m'attache pas à vouloir traduire ceci à la traduction, ce n'est pas qu'on va perdre ce pouvoir, on va le garder. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça révèle de nous-mêmes. Parce que justement, c'est quelque chose qui est oublié en général. On n'apprend pas ça à l'école, pas encore. On a besoin de cette faculté utilitaire. Mais là, c'est autre chose qu'on explore. Donc, je vous encourage à explorer l'audition, ou si vous êtes dehors, voilà le chant d'un oiseau. Là, on a bien l'image, etc., ou le mot, mais l'audition même, ça change. Est-ce que ça change de force, peut-être? Je donne ici des descriptions du son pour qu'on soit de plus en plus attentif jusqu'à ce que finalement, quand il y a pleine conscience, il y a unité dans l'expérience. Il n'y a plus le son et j'entends, le son et la conscience du son, il n'y a plus conscience du son. On pourrait dire qu'à ce moment-là, on parle de pleine conscience. Conscience du son, qui est une présence, comme on a dit avant, mais présence dans cette expérience particulière qui est une présence auditive. Donc on peut explorer tout ceci. Alors le goût, évidemment, pendant les repas, à nouveau, le goût c'est une expérience extraordinaire. On met quelque chose dans la bouche, d'abord on sent un peu le côté physique, si on veut la température, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est humide. Et tout d'un coup, surgit une expérience qui est incomparable, qui est le goût. D'ailleurs, on a un vocabulaire assez pauvre. Les œnologues, ils en rajoutent, ils inventent tout un langage très poétique. Je ne sais pas si ça aide beaucoup, si on n'est pas initié au langage pour savoir quel est le goût de ce vin-là, mais vous voyez, il y a une expérience là. Alors, si on s'attache non pas à essayer ni de trouver la recette, ni quelquefois une sorte de couleur qui vient de l'aliment, si je mangeais une carotte, par exemple, je pourrais avoir une vague image orange. Il surgit, mais le goût à cet instant-là, sans image, sans mot nécessairement, ce qui ne peut pas être traduit en une autre sphère sensorielle. On pourrait avoir une carotte qui a une couleur magnifique et puis je la mange, puis tout d'un coup, ben, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, elle n'a pas bon goût. Donc, on peut aussi explorer ceci. Parce que ça révèle non pas seulement le goût de cet aliment, mais ça révèle qu'il y a une conscience, une présence qui est là, qui fait cette expérience-là. À nouveau, il y a pleine conscience quand il y a cette unité dans l'expérience. Il n'y a pas « je goûte ceci », il y a simplement cette expérience gustative. Et on a l'impression qu'elle occupe tout le champ de la conscience à ce moment-là. Donc, essayez d'explorer, sans mettre trop de discipline, parce que faut qu'il y ait un côté d'exploration, un côté ludique dans ceci. La discipline va un peu rigidifier tout ceci. Maintenant, les sensations corporelles, évidemment, ceci, on l'explore, mais à nouveau, non pas tellement parce que ça nous permettrait de faire l'inventaire de toutes les sensations qu'il y a dans le corps. Alors moi, j'ai des petites vibrations ici, là, j'ai des petits picotements là, etc. Voilà, ça serait évidemment quand même assez peu enrichissant. Mais c'est bien parce que la sensation corporelle, c'est vraiment le corps vécu, c'est pas un corps observé, un corps objet. C'est la sensation corporelle, c'est un corps vécu que seule la personne elle-même peut faire pour elle-même. Toucher le corps d'une autre personne, on peut l'avoir, mais ce vécu corporel que nous avons, c'est là que la conscience et le corps se rejoignent, il n'y a pas de séparation. Le corps a cette capacité extraordinaire d'être à la fois objet, objet pour autrui ou pour soi, on peut se regarder, mais aussi de l'éprouver complètement subjectivement, de le vivre. Donc ça révèle aussi nous-mêmes dans ces expériences, dans ces sensations corporelles. Dans la mesure où on ne s'arrête pas à nouveau au sens qu'on pourrait donner, douleur ou même chaleur ou même interprétation, même si ça aide parfois de trouver le mot qui semble nous approcher un peu de l'expérience. Donc vous voyez que n'importe quelle zone du corps fait l'affaire. Ce n'est pas plus l'abdomen ou la poitrine qu'une autre zone. Mais pourquoi on revient à ces zones, à ces points d'ancrage? C'est parce que ça nous aide, quand quelquefois il y a trop d'expérience, on est perdu, d'avoir des zones d'ancrage qui sont toujours là, disponibles, et qui ne sont pas des zones de second ordre. La manière d'être présent dans l'abdomen, dans la poitrine, si on l'est réellement, elle est aussi riche que si c'est dans une autre zone qui semblerait s'imposer. Donc, il est judicieux de revenir à ces points d'ancrage. C'est une manière qui nous permet de découvrir cette sensibilité. Mais sans que ça devienne un objectif en soi. Parce que quelquefois, ça le devient. On ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose d'autre qui surgit. Imaginez qu'il y a de la lassitude ou du doute. Et alors, je force, je veux être vraiment avec les sensations corporelles, ressentir ceci, ce qui se passe dans l'abdomen, dans la poitrine, alors que je suis peut-être dans une résistance. Il y a un doute. Je me demande ce que je fais là, à quoi ça sert. Et alors, si je ne prends pas conscience de ceci, de cette résistance, pour l'inclure, d'accord, je comprends, il y a un doute, je demande, qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert? Voilà, c'est un doute. À la rigueur, je peux y réfléchir à nouveau ce soir et autres, parce que c'est bien de se demander, qu'est-ce que je fais là? Par moment. Mais si on se demande quand on le fait, alors à ce moment-là, on ne va plus pouvoir le faire. Donc évidemment qu'on va ruiner l'histoire. C'est comme si je vais dormir et je vais dire « je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir ». Le lendemain matin, je suis encore en train de dire « je veux dormir ». Donc si quand j'essaie d'être présent, je dis « je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas à quoi ça sert », je ne vais pas pouvoir découvrir ce que c'est que d'être présent pendant une seconde. Donc le doute a une place, mais il s'agit de le remettre à sa place. Par moment, de se dire « à quoi ça sert ?» Et ben voilà, après le repas, ou je vais faire une promenade, ou le soir, j'ai quand même envie de réfléchir dans le fond, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est judicieux ou non? Mais si on le fait pendant la pratique, alors on rend la pratique inutile, alors les doutes sont bien fondés, puisque ça ne sert à rien, dans la mesure où on ne peut pas établir une qualité, une présence. Voilà donc pour la sphère sensorielle, qui est évidemment immense. Et la sphère sensorielle a une qualité particulière, on verra peut-être quand on compare aux pensées, c'est qu'elle est franche, elle est ce qu'elle est. Le goût, c'est un goût. Voilà, le goût, c'est le goût. Le son, c'est le son. La vision, c'est la vision. Alors qu'on verra, la pensée, elle est plus riche, mais elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. C'est sa richesse, c'est son pouvoir. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Si dans notre méditation nous pensons à quelqu'un, cette pensée se fait passer pour la personne. C'est là que c'est intéressant. Donc il y a une moins grande franchise, mais une manière de parler, parce que c'est ce qui fait la richesse de la pensée, ou de l'imaginaire d'ailleurs. J'ai trouvé une citation, deux citations, au sujet de l'audition qui m'ont semblé intéressant. Une, c'est du compositeur John Cage. Alors, dans sa biographie, on disait de lui qu'il voulait libérer les sons afin qu'ils puissent être eux-mêmes. Libérer les sons afin qu'ils puissent être eux-mêmes. Qu'ils ne soient pas là, représentant du camion, représentant de l'oiseau. Mais le son, il vient pour lui-même. Et là, c'est évidemment, on se rend compte peut-être l'oreille du musicien qui s'intéresse au son comme ça, sans vouloir l'interpréter. Et puis, là, il était influencé par un futuriste italien qui s'appelle Luigi Russolo. Et qui faisait cette remarque, je ne sais pas, dans les années 20 ou quelque chose comme ceci, il disait « Où que nous soyons, ce que nous entendons est principalement du bruit. » On est toujours dans un environnement où il y a du bruit, ça peut être léger ou évidemment plus intense. Il dit « Quand on les ignore, ils nous dérangent. » On veut être là, puis tout d'un coup, il y a des bruits qu'on n'avait pas invités, alors ça nous dérange. Mais il dit « Mais quand on les écoute, ça devient fascinant. » Et on découvre ceci dans la méditation sur l'audition. Quelquefois, on est dans des lieux, ici c'est assez calme, mais je me souviens avoir été dans des lieux où il y avait des constructions juste à côté, donc c'était quand même assez intense et assez fort. Et c'est vrai que si on essaye de faire comme s'il n'y avait pas de son, ça devient difficile. On passe sa méditation à prétendre qu'on n'entend rien du tout, alors que vraiment les sons s'imposent. Donc, le moment où on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette expérience auditive qui nous révèle, là, en plus on n'est pas distrait, on somnole pas, il n'y a pas de problème, il y a vraiment ici une expérience méditative qui est toujours présente, et quand on l'inclut, tout d'un coup, il peut y avoir cette fascination pour cette expérience auditive qui nous révèle à nous-mêmes. Donc dans la méditation, parfois, il y a des bruits qui sont, dans le fond, indéfinissables. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a moins la tendance de mettre une image. Dans une salle, il y a des petits crépitements. Il y a voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais on les entend et tout d'un coup, on se rend compte. C'est presque une pure audition parce qu'on ne peut pas mettre une image dessus. On ne peut pas mettre un mot. On ne va pas se perdre dessus. On revient. Quelquefois, il y a des choses qui sont un peu chroniques, on pourrait dire, des petits crépitements et autres. Donc, par moment, d'être à l'écoute de ceci, on se rend compte que ça nous permet de découvrir cette expérience, on pourrait dire, de pure audition. Bon, à vous d'explorer, je vous donne des pistes comme ceci. Moi, je sais que ça m'avait bien aidé, ces sortes de sons indéfinissables, alors que les voitures qui passaient sur la route, j'ai plutôt tendance à immédiatement voir une image, presque. Dans le même texte, il est aussi parlé de tous les mouvements, de toutes les positions. Ce qui est d'ailleurs assez remarquable. Si on imagine un texte spirituel qui dit qu'on peut atteindre le nirvana ou je ne sais pas quoi, simplement, le texte décrit ceci. Il dit, lorsqu'un méditant, une méditante marche, il sait, je marche, ou elle sait, je marche. Lorsqu'il tourne la tête, il sait, je tourne la tête. Lorsqu'il tend le bras, il sait, ou elle sait, je tends le bras. Vous imaginez, c'est vraiment les choses les plus quotidiennes. D'arriver à placer ceci dans la vie la plus simple, comme moyen, pardon d'employer nirvana qui reste un terme, évidemment, on va voir ce qu'il veut dire, mais déjà un moyen d'une plus grande liberté, d'une plénitude de soi-même et d'une plus grande liberté, d'être simplement là, conscient dans des mouvements les plus simples. Et ce n'est pas du remplissage que fait le texte, voilà, pour nous dire, soyez pas distrait quand vous bougez, mais lorsque vous êtes là, si vous êtes assis sur les sofas ou en train de boire du thé, etc. Alors, évidemment, on peut prendre un livre, puis voilà, s'informer, accumuler encore la connaissance, mais vous pouvez très bien, voilà, dans cette manière de boire le thé, vous tournez la tête, vous tendez le bras, vous touchez la tasse, d'essayer d'être totalement là, dans cette danse très simple. Il n'y a rien dans cette situation qui manque pour découvrir cette plénitude de soi-même et cette liberté. Donc, utiliser aussi ces situations non formelles, parce qu'on a tendance à moins être dans l'attente. On est presque plus détendu dans ces choses-là, parce qu'on ne va pas réaliser nirvana là-dedans, donc on est plus relax, quoi. Voilà, voilà, simplement. Et puis, ça peut amener cette sensibilité dans la détente. On peut la découvrir dans ces choses toutes simples. Donc, ne manquez pas ces situations-là. Et en plus, c'est évidemment ce qui se rapproche le plus de la vie quotidienne. Donc, ça permet vraiment d'intégrer la pratique dans le quotidien. En étant là totalement pour ce qu'on fait. Dans la marche, quelquefois, l'aspect répétitif fait que bon, voilà, on en a fait le tour, on a envie de penser à autre chose, mais dans ces gestes qui sont moins répétitifs, quand vous buvez le thé, ou même simplement assis pour vous reposer sur le sofa, donc vous pouvez aussi même bouger volontairement, en disant, tiens, si je bouge la main, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre ou je ferme la main? Comment est-ce que je peux vivre ceci pleinement? Voilà. Il y a une description formelle de la marche, mais on peut aussi, par moments, explorer des gestes beaucoup plus simples. Pendant les repas, donc on peut explorer cette expérience du goût qu'on qu'on explore évidemment très rarement en général, surtout si on mange avec d'autres personnes, tout le monde parle d'autres choses ou d'autres repas, d'autres nourritures finalement. On est assez peu disponible à vraiment faire l'expérience du coup. Mais il se peut aussi, à table, que d'autres choses surgissent. On est assis, on ne parle pas dans une situation un peu inhabituelle, donc il se peut que des pensées surgissent et autres. Donc, par moment, ça ne sert à rien de vouloir forcer le contact à l'expérience gustative. S'il y a quelque chose d'autre, peut-être pour certaines personnes, c'est un inconfort. Pour certaines personnes, manger avec d'autres personnes en silence, ça fait une punition. Donc, il se peut qu'il y ait un inconfort parfois. Pourquoi pas? Donc, à ce moment-là, il s'agit d'en être conscient aussi. De lassitude. Ou alors des jugements. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. En faisant la recette du plat, je ne sais pas. Donc, si des choses surgissent comme ceci, il s'agit d'être en phase. Et pas d'éliminer et tout d'un coup vouloir se centrer sur quelque chose alors qu'il y a quelque chose d'autre qui nous travaille. Et c'est aussi, le repas, c'est aussi une bonne sphère d'exploration parce que, j'allais dire, on est justifié. On est là pour manger, donc on a quelque chose à faire. On n'est pas quand on marche en allant nulle part, on se demande bien pourquoi on marche, mais là, au moins, voilà, il y a un sens. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi il peut y avoir aussi une détente, et à ce moment-là, on peut prendre conscience de plein de choses qui surgissent. Les jugements qui surgissent sur les gens, sur ceci, sur cela, c'est extraordinaire. C'est la grande richesse d'être en groupe. Ça m'est arrivé de faire beaucoup de retraites tout seul, peu de jugements sur les meubles, donc voilà, alors que là, c'est extraordinaire. Et ces jugements sont très intéressants, parce que ça nous montre comment on fonctionne. C'est pas seulement ici, à Charmec, tout d'un coup, on a pris le virus du jugement quand on est en train de manger. C'est quand même un fonctionnement assez habituel. Donc prendre conscience de tout ce jeu qui peut surgir, ou sur les aliments, ou le lieu. D'une manière générale, quelquefois, la résistance à être présent s'exprime dans la résistance au cadre. Une manière de s'occuper qui est de refaire le cadre, refaire l'horaire, refaire toute l'organisation. Cette résistance, ça nous occupe et comme ça, on a une bonne raison de ne pas être en contact avec soi-même. Pour certaines personnes, c'est une sorte de période de transition pour être là, pour accepter d'être là. D'abord, il faut refaire un peu la peinture, les meubles, l'organisation, l'horaire et tout, et puis finalement, on peut être là. Je me rappelle une retraite où, durait 15 jours, un jeune homme est venu me voir à la fin et il avait tout refait, l'horaire, tout réorganisé, c'était tout faux comme on faisait. Il avait passé ses 15 jours à réorganiser. Avec sûrement des choses judicieuses, parce qu'en 15 jours, quand même, il avait vu des choses. Mais c'était tellement évident que c'était sa manière de ne pas être là, manière de résister au cadre, ceci ou cela. Le cadre, il n'a pas besoin d'être parfait, Dieu merci. Ce serait terrible si on avait un cadre parfait. D'ailleurs, on pourrait se plaindre. Voilà les centres où je suis allé aux États-Unis, à Barrie, par exemple, maintenant les gens se plaignent, c'est trop bien, quoi. Ça s'est tellement développé, chacun a sa chambre individuelle, etc. Les gens disent non, c'est plus comme avant, quoi. Et on peut même se plaindre du trop de confort, quoi. On arrive toujours à trouver le moyen de se plaindre, quoi. Je pensais au premier stage que j'ai fait de méditation, en Inde en 1970 ou 1970, et où les hommes, nous logions sur le toit du monastère. Il y avait une toile simplement, et puis il n'y avait pas la place pour une natte par personne, donc il y avait juste la place d'un sac de couchage. 45 personnes sur un toit qui n'était pas du tout aussi grand que cette salle-là. Nous ne mangions pas après le repas de midi. Et personne ne se plaignait. On serait allé vers l'abbé du monastère pour dire: c'est pas tellement confortable chez vous. Bon, il a fallu parler birman, ce qui était évidemment le cas de personne, mais voilà, c'était comme ça, avec des assises d'une heure, on ne devait pas bouger, et puis un lever à 4 heures. Alors, ça fait un peu discours du vieux combattant, mais bon. Pas pour dire que c'est indispensable, ni pour dire que c'est le plus judicieux, mais on a toujours des manières, dans le fond, de trouver des raisons de ne pas être avec soi-même. Donc il est bien quelquefois d'en prendre conscience, de dire, ben voilà, c'est la manière de regarder autour de moi plutôt que d'être en moi-même. Manière d'être dérangé par les autres quelquefois. Mais on sent dans la pratique, quand on est un peu plus à l'écoute de soi-même, de ce qui se passe en soi-même, on entend beaucoup moins tout ce qui se passe autour de soi. Non pas parce qu'on le rejette, mais simplement parce qu'il y a là quelque chose de contact avec soi-même. Et si on est moins en contact avec soi-même, alors on est beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe autour de soi. Ce qui fait que c'est vécu comme plus dérangeant. Voilà, donc j'ai parlé de ces quatre fondements, j'ai surtout parlé du premier tout en citant les autres, et puis pendant cette semaine, on va revenir aussi sur les autres éléments, sûrement sur la conscience, sur les émotions et autres, qui sont évidemment des expériences tellement importantes, d'essayer de les inclure dans la méditation et de voir où parfois se situe la confusion par rapport à ces expériences-là.